Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le professeur Claude Aziza. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Vous êtes professeur d'histoire romaine, spécialiste de l'histoire des religions. Votre thèse de doctorat portait d'ailleurs sur la place du judaïsme dans l'œuvre de Tertullien. Vous ajoutez à cette profession plus que sérieuse une passion pour les genres littéraires dits populaires et pour le cinéma, deux sujets dont vous êtes l'un des meilleurs spécialistes et que vous traitez avec autant d'érudition que d'humour. Vous venez de publier aux Belles Lettres un livre délicieux, Pompéi, promenades insolites, un ouvrage de 275 pages vendu 25 euros, dont je tiens à préciser qu'il est non seulement passionnant, mais remarquablement bien édité, très, très agréable à regarder, très agréable à feuilleter, qui se présente sous la forme de promenades, une dizaine à la façon des grands auteurs d'autrefois, entraînant le lecteur moderne à Pompéi, mais pas seulement la Pompéi historique, celle aussi fantasmée que nous avons rebâtie. Claude Aziza, pourriez-vous d'abord rappeler à nos auditeurs ce qui s'est passé en 79, non seulement à Pompéi, mais aussi dans toutes les petites cités construites au pied du Vésuve?
Bien volontiers, et juste une petite rectification, si vous voulez bien. Je ne suis pas professeur d'histoire romane, mais de langue et littérature latine.
Ce qui n'est effectivement pas la même chose, pardonnez-moi.
Non, c'est pas que ce ne soit pas la même chose. C'est que je suis au fond à cheval entre l'histoire et la littérature, ce qui explique, un parcours un peu insolite. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, pour répondre à votre question, nous savions depuis très longtemps, par deux lettres de Pline le Jeune, nous savions depuis très longtemps que des cités vésuviennes, il y en a quelques-unes, avaient été ensevelies à une date qu'on avait fixée un peu arbitrairement, en fonction d'une fausse lecture du manuscrit, au 24 août 79. Voilà, ça c'est le point de départ. Alors que s'est-il passé? Eh bien, contrairement à ce qu'on peut lire partout, c'est-à-dire qu'on peut vous décrire, et j'ai essayé de le faire, l'éruption dans ses moindres détails, il faut quand même dire quelque chose, c'est que nous n'avons eu aucun témoin direct. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a simplement les deux Plines, Pline l'Ancien et Pline le Jeune. Pline le Jeune est le neveu de Pline l'Ancien, ils sont à Misène tous les deux. Et ce que va raconter Pline le Jeune bien plus tard à son ami Tacite, dans deux lettres, c'est ce qu'il a vu de loin. Alors, bien entendu, il a dû avoir ensuite des témoignages, des échos, mais je tiens à dire tout de suite que on ne sait pas exactement ce qui s'est passé puisqu'il n'y a pas de témoin direct. Mais on peut l'imaginer avec parfois des inexactitudes qui font que finalement on a des détails qui nous manquent. Voilà, pour dire les choses très clairement, si vous voulez.
C'est un point déconcertant que vous mettez en évidence, c'est qu'excepté Pline le Jeune, qui est en effet un témoin indirect, il n'était pas sur place, et qui d'ailleurs raconte ses souvenirs tardivement, donc il y a peut-être un certain flou, très peu de contemporains ont évoqué une catastrophe qui est pourtant majeure. S'agit-il peut-être d'une perte des sources antiques, d'une ignorance de l'événement par le grand public, il n'y a pas la télévision et les chaînes d'information continues à l'époque, ou d'une espèce d'indifférence?
Je pense que c'est peut-être un peu des trois. Enfin, en ce qui concerne les sources antiques, finalement, il y a très très peu de témoignages. Hein. J'ai essayé de les retrouver à travers ces promenades, il y a peu de témoignages. Je pense aussi que nous sommes dans un siècle, dans une période historique. Au fond, ce qui se passe de loin, même si c'est relativement loin, n'a que peu d'intérêt. Le règne de Titus est un règne qui succède à une guerre terrible, qui est la guerre juive, laquelle succède à un incendie atroce, qui est l'incendie de Rome sous Néron. Il y aura un autre incendie sous le règne de Titus, et puis il y aura également des maladies. Donc, la mort, si l'on peut dire, de Pompéi n'est qu'un épisode, finalement, assez secondaire. Je vais vous donner un autre exemple qui pourra peut-être intéresser vos auditeurs. Regardez la mort de Jésus. La mort de Jésus, dont on sait bien sûr tout ce qu'elle a entraîné, n'est qu'un épisode infime, secondaire, passé dans une petite province lointaine, qui n'est même pas une province, qui est une sous-province, enfin bref. Donc nous n'avons pas la même intensité qui d'ailleurs s'est fâcheusement multipliée ces dernières années, nous n'avons pas la même intensité devant un événement qui finalement a laissé un peu indifférent les contemporains de Titus, mais pas Titus lui-même, qui a fait ce qu'il fallait, et qui a évidemment compris que ces cités, c'était pas la peine de les relever. Voilà. Voilà pour dire que finalement, on ne peut pas dire qu'il y a eu indifférence, je dirais qu'il y a eu plutôt ignorance, comme il y a dans l'Antiquité, ignorance d'événements qui n'ont que des échos très lointains.
Au bout de quelques siècles, c'est à peine si l'on se souvient que Pompéi, Herculanum, Stabie ont existé. Elles ont été englouties par le volcan, il n'en reste aucune trace visible. Et ce qui est encore plus curieux, me semble-t-il, c'est qu'elles n'ont même plus d'existence mythique. Ce n'est ni l'Atlantide, ni la ville d'Is. Il n'en reste véritablement rien dans les mémoires, ou quasiment rien.
C'est ça qui est intéressant. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. L'Atlantide, c'est quand même très paradoxal. L'Atlantide qu'on a cherché partout et qu'on continue de chercher un peu partout dans le monde, l'Atlantide n'a d'existence mythique qu'à partir de deux textes de Platon. C'est tout. On pourrait penser que Pompéi aurait eu plus d'existence puisque là, on avait une catastrophe vraiment réelle. Puisque toutes ces cités du Vésuve, et il y en a encore quelques-unes qu'on n'a pas retrouvées. Il ne faut pas oublier cela. On en a retrouvé pas mal. Le Copétra, par exemple, on ne sait pas où c'est. Donc, il y a des noms comme ça qui disparaissent. Et bien sûr, il n'y a pas de formation de mythe. Et bien, pourquoi il n'y a pas de formation de mythe? Il n'y a pas de formation de mythe parce que le mythe a besoin de s'accrocher à quelque chose pour prospérer, pour engendrer ce que Lévi-Strauss appelle des mythèmes. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faudra justement des hasards au fil des siècles, et en même temps, comment dire, l'Antiquité et les textes antiques disparaissent et ne réapparaissent qu'après la prise de Byzance, de Constantinople par les Turcs, donc vers le 15e siècle. Et à ce moment-là, on commence à redécouvrir des choses, mais finalement, je crois qu'on ne s'y intéresse pas tellement, me semble-t-il. On va retrouver encore, tout au long des siècles, une espèce d'indifférence. Ajoutons un dernier détail, c'est que ce qui intéresse, à partir de la Renaissance, d'ailleurs, le terme inventé par Michelet, il faut le rappeler ici, ce qui intéresse à partir de la Renaissance, c'est moins la vie quotidienne des anciens que, justement, les textes antiques qui donnent des leçons de morale, de vertu. Et ce désintérêt pour le quotidien va durer jusqu'au début du 19e.
À quel moment, Claude Aziza, est-ce que Pompéi et les Herculanum et Stabie vont ressortir justement de cet oubli? Dans quelles circonstances? On peut douter quand même que pendant 15 siècles, personne n'ait travaillé la terre à leur emplacement, ni trouvé ne serait-ce que d'humbles vestiges de leur passé.
Mais c'est qu'on en a trouvé. On en a trouvé, il y a quand même eu des érudits, ce qu'on appelle des antiquaires à l'époque. Le terme d'archéologue, c'est un terme du 19e, ce qu'on appelle des antiquaires, qui connaissaient les textes, savaient très bien qu'il y avait quelque chose. Et personne ne les écoutait parce que ça n'intéressait personne. Il faut dire aussi que nous n'avons pas dans la région de Naples quelque chose d'un royaume unifié. Peut-être qu'on peut imaginer que si Pompéi avait été placé en France ou dans un pays centralisé, on aurait pu peut-être mener des recherches. Mais là, entre le royaume de Naples, entre Florence, entre toutes ces cités romaines, il n'y a pas d'unité. Et finalement, quand on creuse, parce qu'on creuse, bien sûr, on va trouver par exemple sous Herculanum, une statue d'Hercule. Alors on va dire, tiens, c'est Hercule, et puis on trouvera, sans entrer dans le détail, on va trouver des choses. De temps en temps, on trouvera un marbre, et puis de temps en temps, on trouvera aussi, par exemple, des objets de la vie quotidienne. Mais là, il y a un élément qu'on oublie, c'est que finalement, quand on trouve, et ça va durer jusqu'au début du 19e, jusqu'à la fin du 18e, même lorsqu'on trouve des choses sans intérêt, mettons des poteries par exemple, ou bien des petits objets de la vie quotidienne, on les brise.
Ça n'a pas de valeur monétaire, financière immédiate.
Voilà.
On ne va pas le vendre.
On ne va pas le vendre, ou bien on ne va pas le garder dans ces cabinets d'antiquaires qui existent d'ailleurs, mais de plus en plus. Ils seront évidemment plus nombreux au XVIIIe siècle. En revanche, dès qu'on trouve une statue, ou en tout cas quelque chose en bon état, on le prend et on le récupère. Pas forcément pour le vendre, souvent pour le garder. Et puis quand, par hasard, cette statue est mutilée, ben, ça n'offre aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est, bon, comment dire, plus esthétique que utilitaire et même scientifique de la connaissance de l'Antiquité.
Il n'y a pas un souci historique, scientifique, de... on ne recherche pas parce que l'on veut savoir.
Je pense que c'est ça. Je pense qu'effectivement, on ne recherche pas parce qu'on veut savoir, et n'oublions pas quand même un élément très important. On parle des historiens de l'Antiquité, c'est une erreur. Livre, Tacite, Salluste, quel que soit César, quel que soit leur talent immense, ne sont pas des historiens, ce sont des historiographes. Ça veut dire qu'ils reconstituent des éléments dont ils n'ont pas été toujours le témoin, rarement, à part peut-être César, mais on sait déjà qu'on connaît la déformation historique des commentaires de César. Donc ces historiographes ne donnent pas naissance à des historiens. Et en Europe, et en France tout particulièrement, l'histoire ne commence qu'à la fin du XVIIIe siècle. Mettons avec Voltaire, et puis peut-être dans le domaine qui nous intéresse, en Grande-Bretagne, avec Gibbon. C'est tout. Donc, à la fois, il y a un double obstacle. Le premier, c'est que finalement, on ne s'intéresse pas à tout ça. Et le deuxième, c'est qu'au fond, la science historique n'existe pas. Ce qui fait qu'il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour vraiment s'intéresser d'abord à Herculanum et ensuite à Pompéi.
Cette fin du XVIIIe siècle, Odazisa, est intéressante parce qu'elle va voir surgir à la jonction du XVIIIe et du XIXe deux femmes sur lesquelles vous vous arrêtez assez longuement, parce que ce sont deux femmes de tête et deux femmes intelligentes, les deux souveraines successives du royaume de Naples, l'archiduchesse d'Autriche Marie-Caroline, qui a épousé Ferdinand II, le fameux Nason, et Caroline Murat, l'épouse du maréchal Murat, la sœur de Napoléon. Elles sont très différentes, elles sont ennemies, mais toutes les deux vont se passionner pour Pompéi. Qu'est-ce qui explique cet engouement de ces deux jeunes femmes pour cette civilisation enfouie ?
J'ai beaucoup de tendresse pour ces deux femmes. Et finalement, je ne crois pas qu'elles soient ennemies, elles ne se connaissent pas. Elles sont quand même liées par leur amour immense pour Pompéi. Il faudrait en ajouter une troisième, sur laquelle j'ai beaucoup parlé, et je me suis beaucoup étendu, c'est la fameuse Lady Hamilton.
Oui.
Et oui. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, ces femmes ont adoré Pompéi. Elles disparaissent, l'une en 14, l'autre en 15, l'autre va vivre un peu, mais en exil, si vous voulez. Et elles auront, toutes les trois, une existence tragique. Mais sans ces femmes, Pompéi ne serait pas ce qu'elle est actuellement.
Claude Aziza, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de ce merveilleux Pompéi, Promenades insolites, paru aux belles lettres, un livre vendu 25 euros et qui les vaut largement. Je vous remercie encore, Claude Aziza, pour cet excellent moment.
Je vous remercie aussi. À bientôt.